Aristote veut-il dire que la matière étant la même dans l'œuvre d'art et dans la réalité naturelle, tandis que la forme naturelle est tout autre que la forme artistique, artificielle. La forme est plus propre à la nature que la matière. La forme est plus immédiatement liée à la nature que la matière, parce que tout simplement, elle détermine. Donc elle est du côté de l'acte, comme Aristote dira en métaphysique. Et que la nature étant un principe, nécessairement, un principe est premièrement détermination. Un principe n'est pas indétermination. Or, la matière est non déterminée. Donc, elle ne peut être que co-principe. La matière au sens absolu est principe fondamental. C'est pour ça que celle fait l'œcuménisme entre la matière et l'art, entre la nature et l'art. L'œcuménisme est toujours du côté de la détermination, il faut bien le dire, sauf de la finalité, quand c'est un œcuménisme chrétien. Autrement, on va par le bas, les vases communicants. Et au fond, la matière fait l'unité, c'est ça qui est très curieux, entre le monde physique et le monde artificiel. Il fait l'unité, c'est sûr. Puisque la matière, fondamentalement, n'est pas faite par l'artiste. L'artiste emprunte la matière au monde physique. Il emprunte bien aussi la forme. Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a le petit coup de chiquenaude du côté de la forme qui fait que il réalise des relations nouvelles. Et l'eidos artistique est du côté de la relation et non pas du côté de la qualité comme telle. Tandis que la morphée est qualitative. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est ça que ça veut dire. La forme n'est-elle pas plus principe de mouvement et de repos que la matière ? C'est sûr, puisque le principe est déterminant et que la forme est détermination. Il y a un ordre entre matière et forme. La matière étant donnée à la forme et non pas la forme à la matière. C'est la grande erreur de l'évolutionnisme qui oublie que la matière est relative à la forme. Or, l'âme humaine étant créée par Dieu, la matière est adaptée à la forme et non pas la forme à la matière. Je continue, sauf si des questions encore. Mais le couple matière et forme est très très important à bien saisir, hein, et de bien saisir que le couple matière et forme est autre en philosophie de l'art, autre en philosophie de la nature. Ce que je vous ai déjà dit, je le répète parce que je crois ça tellement important. Donc, le couple forme-matière est saisi en premier lieu dans la philosophie de l'art. C'est pour ça qu'en reprenant toute la philosophie selon un mode génétique, je mets en premier lieu la philosophie de la matière, la philosophie de l'art. Et dans la philosophie de l'art, qu'est-ce qui est saisi en premier lieu? La forme. C'est facile, à moins d'être un imbécile, c'est facile de saisir en philosophie de l'art la distinction forme et matière. Tout artiste la saisit. Et tout artiste sait qu'il est dépendant de la matière et que la forme, elle provient de lui. Ça, c'est le don de l'artiste. C'est que la matière, il l'emprunte. C'est pour ça que quand la matière se brise, l'artiste est furieux. Vous avez vu ça, il y a quelques années, à propos du barrage de Fréjus. C'est tellement intéressant à suivre, ça. Parce qu'on a vu les artistes, si vous voulez, les techniciens, c'était quand même des artistes. Les artistes furieux, parce que c'était la matière. Et c'est vrai, dans toutes les œuvres d'art artificielles qu'on voit aujourd'hui, dans les autoroutes, hein, on voit très très bien, la matière peut impliquer des fêlures qu'on ne voit pas. On ne la connaît pas, la matière. Fondamentalement, on ne la connaît pas. Il y aura des fêlures jusqu'au bout. C'est la matière qui se rattrape. Vous voyez, elle n'aime pas d'être dominée. Et elle est quelquefois tyrannisée. Et alors quand elle est tyrannisée, elle se rattrape d'une manière ou d'une autre. Vous savez, cette vieille âme, hein, alors il donne des ruades. C'est toujours très intéressant de voir les ruades de l'âme. Pour voir que la matière a quelque chose d'indomptable. Fondamentalement, la matière est indomptable. Elle a quelque chose qui, au-delà de la domination tyrannique, de la technique, pas des beaux-arts, pas des arts comme tels. Parce qu'un artiste et un artisan, ils caressent la matière en l'utilisant. Tandis qu'un technicien ne le fait pas. Il la domine. Il la tyrannise. Très très curieux de voir ça. Parce que le technicien croit qu'il peut faire de tout, n'importe quoi. Alors que l'artiste sait qu'il y a une matière appropriée. C'est même peut-être là où on découvre le mieux le véritable artiste. Il a le sens de la matière. Je dis, il la caresse. C'est exactement comme un dompteur de cheval. C'est très, très curieux de voir ça. Il caresse le cheval avant de le monter. C'est l'imbécile qui monte sur le cheval tout de suite sans le caresser avant. Parce qu'il sait que la matière est indomptable. Il y a toujours quelque chose d'indomptable. Il y a toujours quelque chose de sauvage dans la matière. Quelque chose de premier. Mais on est tellement dans un monde cultivé qu'on oublie ça. La matière ne peut pas, par elle-même, elle est inconnaissable. Il y a toujours quelque chose qui est au-dessus de toute la chose. Oui.
Pourquoi même dans l'art, il y a une corruptibilité ?
Mais parce que vous êtes en matière. Donc il y aura toujours quelque chose en vous d'indomptable, on le sait bien. Il y a toujours le sauvage, que voulez-vous ? Et le sauvage, c'est l'atavisme, hein ? L'arrière-grand-père ou le vieil oncle qui était un assassin. Et il y a des gènes qui sont encore présents et qui sont indomptables. Et soudain coup, c'est les éruptions. Vous voyez, c'est le volcan qui tout d'un coup. Et celui qui dit qu'il n'y en a pas, ça prouve qu'il a oublié ça. Un médecin sait ça. Et un bon médecin, il sait qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Et qui ne peut pas s'infiltrer dans la matière n'importe comment. Il ne peut pas dompter la matière. Il la caresse. Voyez, c'est la supériorité de l'homéopathie par rapport à l'allopathie. L'allopathie monte sur le cheval indépendamment. Ce remède a été vérifié, peu importe la personne, on lui fourre ça. Mais non, parce que chacun, individuellement, a quelque chose d'unique. C'est ça l'individuation. On a quelque chose d'unique qui n'est pas à côté du voisin. Et donc il faut découvrir ça. Ça c'est l'art. L'art sait que la matière est irréductible à la forme. Irréductible. Et soulignez bien. Ça c'est la première découverte qui se fait dans la philosophie de l'art. Ensuite, vous transposez dans la philosophie de la matière, vous transposez une transposition analogique, mais qui se fait non pas en transposant, en redécouvrant, à partir de ce qui est mu, on redécouvre la nature matière et la nature forme. Vous voyez, l'ordre est inverse. Par la forme, je regarde la matière. Par la nature-matière, je regarde la forme. C'est très curieux, ça. Et là, je passe de la connaissance pratique à la connaissance spéculative. Et la première induction spéculative, c'est la découverte de la nature. Principe. Arche. Cause. Aïssia. La nature. Et cette nature, je vois qu'elle est matière et je vois qu'elle est forme. Évidemment, je la saisis comme principe à partir de la détermination. Mais quand je divise la nature, principe du mouvement, je vois d'abord la matière, puis la forme. C'est très curieux. Et je vois que par la matière, il y a quelque chose de commun avec l'art. Parce que la forme est totalement autre. La forme naturelle et la forme artistique sont totalement autres. Allo, allo. Morphé, eidos. Et je vois comment la transposition de cette forme eidos au domaine spéculatif sans passer par la nature me donne l'idéalisme. Vous voyez, une méta-eidos me fait entrer dans l'idéalisme. Tandis que si je veux rester dans le réalisme, je repense la nature avant de penser la forme. Et je pense la forme par la nature. Ça, c'est capital de comprendre ça. C'est la seule manière de respecter le réalisme dans une philosophie spéculative. Parce que c'est si facile. Vous voyez, le spéculatif engendre si facilement l'idéalisme. C'est pour ça que quand on commence à faire de la philosophie spéculative, on perd un peu pédale. Tout le monde a perdu pédale. Puis après, on retombe sur ses pieds. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais idéaliste. On est tous idéalistes jusqu'à un certain âge. C'est si beau la spéculation. C'est si beau. C'est si beau de découvrir des principes. C'est si merveilleux. Parce que c'est pas gênant les principes. Je les porte en moi. Ce qui est gênant, c'est la matière. Vous voyez, tant que vous ne découvrez pas principe matière, vous ne découvrez pas l'irréductibilité du principe. C'est très très curieux. Et c'est parce qu'on découvre la nature matière qu'on peut distinguer de la matière, la forme, nature-forme. Je découvre à l'intérieur de ce principe une division possible. Ce qui est unique. Hein. Il n'y a que le principe du devenir qui peut être double. Donc il est presque contradictoire. On comprend très bien que les premiers philosophes ont considéré que le devenir n'était pas philosophique. Et on comprend très bien, le devenir n'est pas philosophique. Vous voyez, c'est l'aspect esthétique. C'est la méta-eidos qui fait que je ne comprends pas comment un principe peut être un principe du devenir. Et comment, dans le devenir, il peut y avoir un principe. Et donc, le principe dans le devenir, il est double. C'est très curieux. Alors, réfléchissez sur ça. C'est tellement important. Et vous voyez que la plupart des thomistes, pour ne pas dire, hein, la plupart des thomistes, Gilson en tête, considèrent que le couple matière et forme est d'apport en philosophie de la nature. Ils oublient la philosophie de l'art. Le thomisme a oublié la philosophie de l'art. Saint Thomas, étant théologien, n'a pas besoin de le faire. Mais si vous voulez reprendre une philosophie réaliste, vous êtes obligé de reprendre la philosophie de l'art pour comprendre que la distinction matière et forme est d'abord artistique. Vous voyez, c'est le premier dans l'ordre génétique. Donc c'est le premier dans l'ordre génétique. Et le premier dans l'ordre génétique, très facilement, devient le premier dans l'ordre de la détermination. Et le jour où ça devient le premier dans l'ordre de la détermination, l'eidos artistique devient une méta-eidos artistique. Et vous ne saisissez plus la nature-forme dans son irréductibilité par rapport à l'eidos. Vous voyez, et Aristote a respecté morphé-eidos. Qu'on voit bien la parenté analogique entre eidos et morphé, mais la morphé est irréductible à l'eidos. Je crois que c'est ça que Aristote essaie de faire comprendre, hein, en montrant ce petit jeu qui, entre le point de vue de la matière, là, il revient dessus, là. Montrer que la matière est la même du côté de la philosophie de l'art et du côté de la philosophie de la nature. Quand je dis la même, attention, analogiquement, parce que la saisie de la matière chez l'artiste est tout autre que la saisie de la matière chez la philosophie de la nature. Alors là, au terme, on est, il faudra comprendre que la matière est saisie, parce qu'elle est toujours saisie analogiquement. Vous ne pouvez pas saisir la matière directement. C'est le sauvage. Et le sauvage n'aime pas qu'on le photographie. Vous savez bien, c'est des procédés magiques qui viennent d'une culture complètement artificielle de photographier quelqu'un. Avec ça, vous pouvez avoir un pouvoir sur lui. Eh bien, la matière ne peut pas être photographiée. Elle est toujours saisie analogiquement par la forme, par le principe. Jamais saisie directement. Alors, vous avez des visions de la matière selon toutes les graduations de la philosophie. Vous voyez, matière au niveau artistique, matière au niveau éthique, matière au niveau politique, matière au niveau de la philosophie de la nature, matière au philosophie du vivant, matière en métaphysique, et matière en vision de sagesse. Vous avez six visions de la matière. Alors vous voyez les confusions que ça peut faire. Parce que c'est une saisie analogique. Vous saisissez la matière toujours en second, jamais en premier. Alors on continue. Donc je suis toujours ce livre 2, le livre B, 193B. Où l'on doit d'ailleurs bien noter que la forme physique et la nature sont dites de deux façons. Alors, de nouveau, hein. De nouveau, on va bien préciser. La forme physique et la nature. La privation aussi, en effet, est d'une certaine manière forme eidétique, donc eidos. Je crois que dans une tradition, il vaudrait mieux mettre forme et entre parenthèses eidos. Parce qu'en français, il n'y a pas. C'est le même mot, vous voyez ? C'est là l'équivoque du français. Évidemment, je peux mettre forme artistique. Quant à savoir si, concernant la genèse absolue, existe ou n'existe pas la privation, qui serait aussi un certain contraire, la question devrait être examinée par la suite. Très intéressant, voyez ce que dit ici Aristote. La philosophie de la nature ne prétend pas connaître la forme. Chaque fois qu'on touche la forme pour elle-même, c'est une autre connaissance. La philosophie de la nature connaît la forme en fonction de la nature, et elle est nature-matière, nature-forme. Et des petites remarques comme celles-là sont très intéressantes. La philosophie de la nature connaît la phusis, et donc la phusis forme. Et la phusis forme implique la phusis matière. Et donc je ne connais pas vraiment l'eidos. Je connais l'eidos en philosophie de l'art et je connais l'eidos en métaphysique. Et en critique. Alors chapitre 2. Puisque l'on a discerné en combien de façons se dit la nature, nature-matière, nature-forme. Il faut, après cela, porter le regard de l'intelligence. En quoi le mathématicien diffère du physicien? Question de critique. Donc chapitre 2, question de critique, vous voyez. Ce serait très intéressant pour nous de faire l'analogue par rapport à la physique contemporaine. Il faut, après cela, mais voyez bien, le regard critique vient après, il n'est pas premier. C'est ça qui est très important. Je ne saisis pas la nature à partir du regard du métaphysicien, du mathématicien. Ça, ce serait Platon. Et quand je veux saisir la nature d'Aristote à partir de la physique contemporaine, je la saisis à partir des mathématiques. Et donc je suis platonicien. Toute la différence entre le regard platonicien et le regard aristotélicien. Le regard aristotélicien, il est direct sur la réalité, à partir du jugement d'existence. Mais l'ayant saisi, je fais la comparaison avec le mathématicien. Ça, c'est comme méthode, c'est très important à bien comprendre. En quoi le mathématicien diffère du physicien? Et en effet, les corps physiques sont des surfaces, des volumes solides, des grandeurs et des points, concernant lesquels le mathématicien examine de multiples problèmes. Examine tout simplement. Autrement dit, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que les mêmes réalités sont considérées sous deux points de vue différents. Le regard de l'intelligence sur les surfaces, les volumes, les grandeurs, les points, peut être un regard de la philosophie de la nature ou un regard du mathématicien. Il se rend compte sur le terrain. Hein. Prenez toujours la petite comparaison que je vous ai déjà dite. Le philosophe de la nature vole à tel niveau. Le mathématicien vole à tel autre niveau. Il se rend compte sur le terrain. Parce que l'homme implique surface, volume, point. Quand je mets comme ça, faites attention, hein. Deux abstractions différentes. Donc, l'abstraction mathématique sur un point est plus élevée, plus élaborée que l'abstraction de la philosophie de la nature. Et sur un autre point, c'est différent. Les deux ne se rencontrent jamais. La seule différence, hein, c'est que l'abstraction mathématique, c'est le fils aîné, hein, les droits d'aînesse. L'abstraction de la philosophie de la nature vient après. C'est le cadet. De fait, c'est comme ça que ça s'est passé historiquement. De sorte que l'abstraction mathématique, ayant cette priorité, veut toujours déterminer. Alors qu'elle ne fait que conditionner. Ça, c'est un fait. Vous retrouvez le même problème avec Descartes. Modo geometrico. C'est très très curieux. Et c'est le même problème aujourd'hui. C'est le même problème du CERN. Husserl fait une thèse en mathématiques. Et ce serait très intéressant de voir comment cette thèse mathématique détermine son regard philosophique. Ou le conditionne. Avec notre cher ami Vautier qui étudie la thèse mathématique du CERN, discuter une fois là-dessus. Parce que Husserl est d'abord un matheux. Et des mathématiques, il passe en philosophie. Alors, est-il platonicien, est-il aristotélicien? C'est ça qui est intéressant à se poser la question. Il est platonicien si sa thèse mathématique détermine sa position philosophique. Il est aristotélicien si il comprend qu'il y a deux abstractions différentes. C'est-à-dire s'il se libère des mathématiques pour entrer dans un autre regard qui est un regard philosophique. Je crois qu'il faut poser la question comme ça. Et ici, on voit bien, c'est le regard d'Aristote va être très différent du regard platonicien sur les mathématiques. Vous voyez, c'est toujours à partir d'un contact qu'on peut comprendre la différence. Il y a une position aristotélicienne, il y a une position platonicienne différente sur les mathématiques. Et surtout par rapport à l'usage des mathématiques en philosophie. Là, on peut voir sur le terrain la rencontre des deux. Alors, voyons le regard aristotélicien par rapport aux mathématiques et par rapport au rapport des mathématiques et la physique. Et voyez qu'Aristote fait ça après avoir saisi la nature. Hein ? C'est ça qui est intéressant à voir. Il a saisi la nature en impliquant le jugement d'existence, ce qui est mu. Autrement, il n'aurait pas pu saisir la nature. Parce que la nature implique un jugement d'existence. Les corps physiques sont des surfaces, des volumes solides, des grandeurs et des points concernant lesquels le mathématicien examine. De plus, l'astronomie est-elle une science autre que la science physique ou, au contraire, est-elle une partie de la science physique? Donc, de plus, l'astronomie autre ou une partie de la physique? Si, en effet, c'est l'affaire du physicien de savoir de science ce qu'est le soleil ou la lune, mais qu'il ne sait rien des attributs inhérents par soi en ceci, on aboutit à quelque chose d'absurde, en particulier parce que ceux qui examinent ce qui concerne la nature apparaissent comme s'exprimant aussi concernant la figure de la lune et du soleil, et se demandant si la Terre et le cosmos sont ou non sphériques. Vous voyez l'astuce d'Aristote, hein, c'est très très intéressant. En étant critique, on a deux types de connaissances différentes. Et ces deux types de connaissances différentes regardent la figure, la sphère. Quel est le regard du mathématicien sur la sphère? Quel est le regard du physicien sur la sphère? Eh bien oui, le mathématicien aussi s'affaire concernant ces déterminations, ces figurants. Mais non en tant qu'elles sont chacune une limite d'un corps physique. Il les regarde en soi. Il ne les regarde pas en tant que limite d'un corps physique. Donc d'un corps existant. La nature existe. La nature est ousiant. Il l'a dit. Quand il dit que la nature est ousia, il veut montrer que, de fait, elle existe. Elle implique une dépendance à l'égard de l'être. Et il ne porte pas non plus le regard de son intelligence. Sur les attributs, en tant qu'ils innèrent, en des êtres de cette sorte. D'où vient d'ailleurs aussi qu'il les sépare, car ils sont séparés par lui en pensée. du mouvement. Et quant aux mathématiques, cela n'importe en rien, ni n'engendre une erreur de ceux qui font cette séparation. Alors, il y a dans le langage quelque chose de très intéressant, de bien comprendre la différence du langage d'Aristote entre abstraction et séparation. Vous avez un petit article dans Saint Thomas, extrêmement intéressant là-dessus, dans le De Trinitate de Boès. Saint Thomas qui commande ça. Et Saint Thomas montre bien la différence entre séparation et abstraction. L'abstraction regarde la première opération d'intelligence. Non, l'abstraction regarde l'appréhension. Et la séparation regarde le jugement. Il n'y a pas de séparation au niveau appréhension. Toute séparation est au niveau du jugement. Alors, il serait intéressant ici de regarder la position du père Geiger. Et la position que nous prenons. Qui est intéressante là-dessus. C'est très intéressant. Parce que là, on est en face de positions qui nous permettent de séparer, ou de distinguer, plutôt de distinguer Platon et Aristote. Je crois que tout est là. C'est même là ce qu'oublient, tout en faisant eux aussi, ceux qui disent les idées existaient, car ils séparent les êtres physiques, qui sont pourtant des êtres bien moins séparables que les êtres mathématiques. Comment comprendre la distinction entre être mathématique et être physique ? Les êtres physiques ne peuvent pas se séparer du sensible et ne peuvent pas se séparer du mouvement. L'être physique est un être mobile, est un être sensible. Les êtres mathématiques, ce sont des êtres qui ne sont pas sensibles et qui ne sont pas mobiles, et qui restent des êtres quantifiés. On va le voir progressivement, ça. Et c'est ça qui est très important, hein. Ce sont des êtres abstraits. Ce sont des êtres abstraits. L'être mathématique, pour Aristote, est essentiellement abstrait. Abstrait du sensible et abstrait du mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il est séparé du sensible et du mouvement, puisqu'il n'existe que dans l'intelligence du mathématicien. Donc il n'est pas séparé. L'existence de l'être mathématique, c'est donné par le mathématicien. Donc il n'est pas séparé du sensible et du mouvement. Mais il est abstrait du sensible et du mouvement. Et là, vous voyez, c'est même là ce qu'oublient, tout en faisant eux aussi, ceux qui disent les idées existaient. Car il sépare les êtres physiques, qui sont pourtant des êtres bien moins séparables que les êtres mathématiques. Cette question deviendra manifeste si l'on cherche à exprimer les délimitations rationnelles, les délimitations de chacune de ces deux sortes de réalités. À savoir, et ces êtres eux-mêmes, et les attributs qui innèrent en eux. En effet, alors on va donner l'exemple. Là, vous voyez la méthode d'Aristote. Hein, on commence par ce qui est le plus immédiatement connaissable, étant donné la difficulté du problème. Donc il ne faut pas se fatiguer. On regardera d'abord ce qui est le plus immédiatement définissable. Pour regarder ensuite le point de vue du sujet. Cette question deviendra manifeste. Donc ça veut dire tout simplement, c'est pas manifeste maintenant. ça deviendra manifeste. Si l'on cherche à exprimer les déterminations de chacune de ces deux sens de réalité, à savoir, et de ces êtres mêmes, et des attributs qui innèrent en eux. Les attributs sont plus connaissables que leur sujet. C'est donc à l'égard des attributions mathématiques et des attributions physiques qu'on pourra le mieux comprendre la différence de l'abstraction physique et de l'abstraction mathématique. Et comme c'est astucieux, ça, Feuerbach fait la même chose. Il faut toujours penser à Feuerbach derrière. Parce que c'est très intéressant de voir ce que Feuerbach fait. On l'a vu à propos des voies d'accès vis-à-vis de Dieu et la manière dont Feuerbach regarde. Il regarde les attributs. Parce qu'il dit que le sujet, c'est X, c'est l'inconnu. Vous voyez, qu'il s'agisse de l'homme ou de Dieu, c'est X. Le sujet est toujours inconnaissable. Il est connaissable par les attributs. Et donc, c'est les attributs qui me permet le mieux de saisir le degré d'abstraction. Oui.
Mais ces attributs, c'est le devenir.
On va le voir. L'impair et le père. Oui. Le sujet, ça c'est une grande loi logique, c'est une grande loi logique que le sujet comme tel n'est déterminé que par ses attributs. Voyez, Feuerbach fait ça exactement la même chose. À ce point de vue-là, il est aristotélicien. Il n'est pas bête. Vous avez Dieu est infini. L'intelligence humaine est infinie. Dieu, c'est un X. Pour Feuerbach. Hein. Et vous attribuez à Dieu des quantités d'attributs qui sont connus. Et vous attribuez à l'inconnu. Et vous vous trompez de suppos. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit. La seule chose que vous connaissez, c'est l'esprit de l'homme. Or, vous avez les mêmes attributs qui peuvent regarder Dieu et l'esprit de l'homme. Alors vous dites, vous êtes trompé. En réalité, c'est pas Dieu. C'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est infini. Descartes a dit que l'idée d'infini inhère à l'intelligence humaine. Vous voyez ? Donc, si je vais jusqu'au bout de Descartes, je dis que l'infini inhère à l'esprit de l'homme et non pas à Dieu. Et voyez le raisonnement d'Aristote ici. Il dit, c'est par les attributs que je peux saisir le sujet. Pourquoi ? Parce que le sujet comme tel, est indéterminé. Donc il est X, et je le connais par ses attributs. Alors, ne dites pas que les attributs c'est Y. Mais les attributs, on les connaît. Et on les attribue, on connaît le sujet par les attributs. C'est vrai que le nom comme tel possède toujours une indétermination. Dans les catégories, le nom est sujet. Et donc, il est toujours indéterminé. Il est toujours un peu matière par rapport aux attributs qu'on donne. Ça, c'est un simple petit procédé qu'Aristote dit. Hein, un petit procédé de critique. Si vous voulez comparer les sciences, et ça existe toujours, hein, si vous voulez comparer les sciences entre elles, ne regardez pas le sujet. Regardez les attributs. Les attributs, c'est toujours pris formellement. Et le sujet est toujours pris matériellement. La grande règle de logique. Les attributs sont pris formalitaires. Et le sujet, matérialitaire. Saint Thomas dira tout le temps ça à la suite d'Aristote. Alors quand vous comparez les sciences entre elles, ne comparez pas le sujet. Je vous donne un petit exemple, vous allez tout de suite comprendre. Dieu est sujet de la théologie doctrina sacra. Dieu est sujet de la théologie naturelle. C'est Dieu. L'homme est sujet de la psychologie. L'homme est sujet du De Anima. L'homme est sujet, l'homme est une personne, en philosophie première. L'homme est une créature, dans un jugement de sagesse. C'est toujours l'homme. Et chaque fois, il est saisi formellement différemment. Donc si vous voulez comprendre la différence qui existe entre la philosophie du vivant et la psychologie, vous regardez les attributs. Petit procédé, très simple. Cette question deviendra manifeste si l'on cherche à exprimer les délimitations rationnelles de chacune de ces deux sortes de réalités, à savoir, et de ces êtres mêmes et des attributs qui innèrent en eux. L'impair, le pair, le droit, le courbe, d'une part, le nombre, la ligne, la figure, de plus et d'autre part, existeront, suivant cette expression, sans mouvement, tandis que la chair, l'os, l'homme ne le feront plus. Vous voyez ? Les attributs mathématiques s'abstraient du mouvement. Les attributs physiques ne s'abstraient pas du mouvement. Voilà la ligne de démarcation. Et c'est du côté des attributs que vous le voyez tout de suite. Vous voyez, c'est là l'application de ce que dit Aristote dans les analytiques, les seconds analytiques, pour bien comprendre la différence d'une science par rapport à une autre science. Regardez la conclusion, la propriété. Et vous voyez tout de suite le degré d'abstraction. C'est là où vous pouvez le mesurer. Tandis que la chair, l'os et l'homme ne le feront pas. Ne le feront plus, ne le feront pas. Mais ces êtres-là sont exprimés à la façon dont existe un nez Camus, et non à la façon dont existe le courbe. Réfléchissez sur nez Camus, et réfléchissez sur courbe. Courbe fait abstraction de la chair. Nez Camus implique la chair. Le manifesteront aussi les parties les plus physiques des mathématiques, telles que l'optique, l'harmonique, l'astronomie, car elles ont un rapport à la physique qui joue, d'une certaine manière, à l'inverse de celui qu'elles ont à la géométrie. En effet, la géométrie examine ce qui concerne la ligne physique, mais non en tant que physique, tandis que l'optique mathématique examine bien la ligne, mais non en tant que mathématique, mais en tant que physique. Ça, c'est très astucieux et c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre la physique moderne par rapport aux applications mathématiques. Heureusement qu'Aristote a dit ça. Nous reviendrons là-dessus. Mais relisez-le attentivement. C'est un passage très important pour la critique des sciences. Or, il faut que nous reprenions les degrés du savoir de Maritain. Ça, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif que nous devrions refaire. Reprendre les degrés du savoir de Maritain et les reprendre dans une lumière beaucoup plus aristotélicienne.